Rodolphe Töpffer, Nouvelle Genevoise, La Traversée. J'ai connu autrefois un enfant qui annonçait les plus brillantes qualités militaires. Malheureusement, il était bossu. Enfant aussi dans ce temps-là, je l'accompagnais aux revues, aux parades, à l'exercice, partout où le tambour battait ou des uniformes défilaient. Non pas que ces spectacles eussent eu pour moi un attrait bien vif, mais parce qu'attaché à mon camarade, j'aimais à perdre mon temps dans sa compagnie. Ce bossu s'animait donc au son des fifres et des tambours. Et quant à cette musique du bruit succédait la musique plus expressive des instruments avant, je ne sais quelle véhémente impression, venant à remuer son âme, répandait sur ses traits comme un rayon de belliqueuse fierté, de martiale ardeur. Et si ensuite les feux de file, le tonnerre de l'artillerie retentissaient dans la plaine, si les régiments, marchant les uns contre les autres, simulaient l'attaque, la victoire, la retraite et tout le spectacle de la guerre, l'enfant alors, passionné par cette vue, s'élançait dans les tourbillons de fumée. Il se mêlait aux tirailleurs, il accompagnait les pièces, il courait sur l'aile des escadrons, s'exposant à chaque instant à être écrasé sous les pas des colonnes ou maltraité par les soldats dont il gênait les mouvements. La revue finie, il marchait en cadence à côté de la tête du bataillon, les yeux fixés sur le commandant, et simulant par quelques gestes qu'il obéissait à tous les ordres, qu'il exécutait mentalement toutes les évolutions. Ses manières le faisaient remarquer de la foule, et les gens riaient à le voir. Mais lui, sous l'empire d'un sentiment sérieux, continuait de marcher en cadence, insensible à la moquerie, et tout ivre d'émotion, de gloire, de patrie et de bataille. « Je veux, me disait-il, lorsque, errant le soir aux environs de la ville, nous promenions solitairement, « je veux, dès que j'aurai l'âge, m'engager. As-tu vu le commandant quand il galopait au travers de la plaine ? Commander un escadron, fondre comme l'éclair sur les lignes hérissées de fer, gagner la gloire, non pas en attendant la mort, mais en volant la chercher ou la donner, rompre, disperser, poursuivre. Mon arme, Louis, c'est la cavalerie. » Un peu remué par tant d'enthousiasme, je me surprenais à rompre aussi en imagination, à disperser, à poursuivre. Et pour lui, reprenant, « Eh, c'est rien encore. Oh, les voilà qui fuient, laissant sur la place leurs blessés, leurs morts. » Alors je rallie mes dragons, tout couverts de poussière, d'écume, de sang, et nous reprenons le chemin de la ville sauvée. On voit de loin la foule qui inonde les remparts, qui couvre les toits des maisons. On approche, on défile. Le chef blessé caracole à la tête de ses braves. Tous les regards lui lancent des couronnes, tous les regards cœur folle à sa rencontre. Mon arme, lui, mais c'est la cavalerie. Je me plaisais à ces discours, animés qu'ils étaient par le feu d'un sentiment vif et passionné. D'ailleurs, habitué à voir dans cet enfant un ami avant d'y avoir vu un bossu, l'idée grotesque de sa pauvre personne enfourchée sur un noble coursier et ne se présentait point à ma pensée pour y ternir l'éclat de ses brillants tableaux. Bien loin donc de sourire, j'écoutais avidement, puis, dominé bientôt par cet ascendant qui exerce un caractère fort et ardent, je devenais le soldat de mon généralissime, et après avoir excité sous ses ordres d'habiles manœuvres, nous reprenions le chemin de la ville, tantôt marquant, tantôt accélérant le pas, au son des fifres, de la musique et des tambours. candeur charmante du premier âge. Aimables enfants dont les cœurs ingénus s'aiment et s'unissent malgré la laideur corporelle, en dépit des témoignages du regard dont les yeux ne sont point troublés encore par les hontes et les poisons du ridicule. J'ai toujours vu dans les dispositions de cet enfant comme une éclatante preuve de cette différence qui doit exister entre les deux substances dont se compose notre être. Quoi, ce corps grêle et difforme, et au-dedans cette âme chevaleresque, s'enivrant de l'ombre même, de la gloire et du triomphe. Ce malheureux que sa stature appelle à s'effacer, à se taire, à refouler tout essor de sentiments, d'enthousiasme, de passion. Et cette âme belle, autant que les plus belles, tout avide d'émotions, de fiers transports, d'éclatants dévouements. Ne laisse pas l'image frappante d'un assemblage forcé de deux natures sans rapport entre elles, d'une terrestre et grossière enveloppe qui retient captive une pure essence. Au surplus, il n'est pas besoin de recourir au bossu pour recueillir des renseignements tout pareils. Regardez autour de vous. Combien de visages durs, sombres, laids, tous échappent pourtant comme des rayons de bonté sereine, de délicate affection. Combien de fragiles statures renferment des âmes de fer. Combien de colossales charpentes, toutes d'os et de muscles, recouvrent des âmes molles et sans vigueur. Et sans regarder autrui, qui ne sent vivre au-dedans de soi cette hôte étrange au logis qu'il habite, ce noble exilé qu'étouffe les murailles de son étroite prison, qui ne le sent s'attrister ou jouir de sa tristesse et de sa propre joie, qui ne le sent s'agiter, bondir, frémir d'enthousiasme ou d'allégresse, alors même que le corps semble sommeiller, et sommeiller alors même que le corps se démène au sein de ses plus chères délices. Quand paraît sur la scène la douce et pure déesse des Monas, quand Othello échange avec elle les transports d'une confiante tendresse, quand ce serpent d'Iago rampe autour de ces deux créatures si heureuses, si sereines à cette heure encore, et quand déjà le venin circulant dans les veines du mort enflamme son sang, fait jaillir l'éclair de sa prunelle, et pénètre dans son cœur le démon des vengeances. Voyez dans l'amphithéâtre ces milliers de figures assises à la file les unes des autres, silencieuses et comme privées de vie. Ce sont les enveloppes corporelles, les cadavres terrestres. Pendant qu'étrangers au drame qui se déroule, ils chargent les gradins de leur masse immobile, les âmes s'en sont envolées, ardentes, agitées, tumultueuses, frémissantes d'horreur ou saignantes de pitié. Elles errent en désordre sur la scène. Elles s'épanchent en flots de malédictions sur Iago. Elles crient aux morts qu'on l'abuse. Elles entourent, elles enveloppent, elles protègent de tout ce qu'elles ont de compassion et d'amour l'amante pure et menacée. Et par un frappant contraste, tandis que tout est repos et torpeur dans la vaste enceinte, tout est passion, mouvement, orage dans l'invisible région où elle se presse éperdue. Je reviens à mon bossu. Il était dans la destinée de ce pauvre enfant que chacune des illusions auxquelles son cœur ouvrait un si facile accès dut s'y évanouir aux premières leçons d'une précoce expérience. Aussi ces transports guerriers furent-ils de courte durée. À mesure qu'ils grandissaient, le rire et la moquerie le trouvèrent moins insensible. Une honte craintive contraignit peu à peu l'essor de ses penchants. Y comprit avec amertume que la cavalerie n'était pas son arme. Mais ce n'est qu'à la longue que le naturel se transforme. Et si Henri, Henri c'est le nom de mon camarade, ne fréquentait plus les revues, il n'avait pas abjuré tout désir de se distinguer, de conquérir les suffrages de la multitude. Seulement, ce désir changea d'objet. Témoin un jour du triomphe d'un avocat, il vit aussitôt la carrière du barreau sourire devant lui, et l'envie de s'y faire un nom enflammait ses espérances. Il regretta moins dès lors cette gloire du soldat qui avant tout autre avait si vivement séduit sa jeune imagination. Bien qu'encore enfant, il se livra à l'étude avec une ardeur dont ses maîtres ne savaient pas le secret, et tout pénétré de la gravité, de la noblesse de ses futurs travaux, il se passionnait pour l'innocence et s'essayait à tout propos en plaidoyer empreint d'une juvénile emphase. Les plaidoyers, c'était désormais l'unique et constant sujet de nos entretiens, l'attrait principal de nos promenades. « Tu es l'accusé !» s'écria-t-il tout à coup lorsque nous étions arrivés dans quelque solitude écartée. « Ton crime, je te l'apprendrai. Assieds-toi. Ici les juges, là les jurés. De ce côté, la foule. » Car il lui fallait la foule. « Et je commence. »« Juge !» disait-il avec solennité du haut de son tertre. Pendant que, nonchalamment étendu sur le gazon, je me laissais débonnairement défendre. Juge, à la vue de cet infortuné, quelle sanglante catastrophe a amené sur ce banc d'ignominie, je suis navré de douleur et tremblant de crainte. Sa cause est belle, pourtant, mais je me méfie de mes forces, et en songeant que le sort, que la vie peut-être de mon client dépendra de l'usage que je vais faire de cette parole qui m'est laissée pour quelques instants, je ne puis me défendre d'un trouble involontaire. Quand le soleil me grille, interrompis-je en me levant pour changer de place. Oh, ne bouge pas, ami, ou je te défends pas, s'écria l'avocat avec un emportement très sérieux. Je vais raconter les faits. Loin de moi toute réticence, tout subterfuge, car c'est dans l'exposé fidèle de la vérité que je vois la force de ma cause. Écoutez-moi donc, juré. J'appelle à mon aide votre attention, vos lumières, vos consciences. Et certain que cette même conviction où je puise à cette heure bon courage va bientôt passer dans vos âmes, j'attends avec confiance votre sentence suprême. Louis Desprez, mon client, c'est mon propre nom qui figurait ainsi au procès, s'est marié il y a 12 ans avec Éléonore Kersin, la fille d'un avocat dont la voix a souvent retenti dans cette enceinte. Les premières années de cette union furent heureuses, et 5 enfants, ici le plaidoyer, fut interrompu par de grands éclats de rire. C'étaient des camarades qui, se promenant alentour, venaient de nous apercevoir. Le bossu descendit de son tertre. Un autre y monta aussitôt pour le contrefaire, en faisant risiblement contraster la tournure de l'orateur, sa physionomie grêle, ses gestes anguleux et rétrécis, avec l'emphase sonore de ses paroles. Mon pauvre ami, pâlissant et déconcerté, s'efforça de sourire à ses traits qui lui déchiraient le cœur. Mais sa plus chère espérance lui était enlevée en ce moment. Croyant voir en effet dans les rires dont il était l'objet, l'impression qu'il était appelé à faire un jour sur cette foule dont il ambitionnait les suffrages, le découragement s'empara de lui, et dès ce moment il ne songea plus à la carrière du barreau. Mais il y avait annoncé depuis longtemps qu'il avait encore à subir ces railleries et ces quolibets qu'autorise entre camarades une familiarité qui n'est trop souvent que le manque de la plus ordinaire bonté. Il ne lui arriva pas néanmoins dans cette occasion, ni dans d'autres, ce qui arrive fréquemment aux bossus, et ce qui est cause que le proverbe leur attribue un caractère tout particulièrement malicieux. Sans cesse en but aux attaques du ridicule, ils ramassent l'arme qu'on leur lance et la renvoient aiguisée par une malice vengeresse. C'est dans ce triste exercice que leur œil se forme à saisir du premier coup le côté vulnérable de leur adversaire et à y décocher d'une main prompte et sûre un trait qui frappe juste et fort. C'est en particulier dans ce triste exercice que les bossus du bas peuple, ceux que rien ne protège et que rien ne contraint, contractent cet air d'ignoble malice, cynique sourire, ce regard disgracieux et jaloux, cet esprit caustique enfin, que le proverbe signale, sans ajouter d'y faire entendre qu'il n'est que l'arme d'une légitime défense opposé à une agression basse et méchante. Pour Henri, quoique au milieu de la vie publique républicaine des collèges, il se trouva constamment exposé aux moqueries, aux sarcasmes, son cœur n'y perdit rien de sa noblesse ni de sa bonté. Cachant ses blessures derrière un masque d'indifférence ou de résignation, il dédaignait de ramasser le trait qui lui était lancé, parce qu'il n'y trouvait aucun soulagement à rendre le mal qui lui était fait. Il préférait être moqué, mais bien vu de ses camarades, aimé d'eux peut-être, au triste avantage d'être craint mais délaissé. Cette noblesse d'âme se peignait sur son visage, dont les traits aimables et l'expression douce et mélancolique faisait oublier, sans le détruire, le vice de sa nature. C'est ainsi qu'après une ingrate adolescence, Henri s'avançait vers une jeunesse dépouillée à l'avant de tous ses prestiges. Ses yeux s'étaient dessillés par degrés. Il avait entrevu les bornes de la sphère dans laquelle il lui était permis de se mouvoir, et, devinant sans les attendre les rudes leçons du ridicule, il employait ses efforts à maîtriser des facultés jalouses de se produire et à dompter les mouvements d'un naturel ardent et expansif. Oh, c'était sage, mais lorsqu'il y fut parvenu, sa condition n'en fut que plus triste. Les choses mêmes qu'il avait captivées jusqu'alors, l'étude, le savoir, il devint peu à peu indifférente à mesure qu'il arrivait à y voir non plus un moyen de se distinguer dans une carrière active et publique, mais seulement une occupation oiseuse, une récréation stérile. Après avoir végété durant quelques années, il finit par se résigner à l'obscurité et se laissa guider par ses parents, dont il avait jusqu'alors contrarié les vues sévères, sans doute, mais prévoyantes. Ils lui firent embrasser la carrière du commerce, et ce jeune homme, enseveli désormais dans l'antre d'un bureau, y appliquait cette intelligence et ces talents dont il avait rêvé de faire à ses semblables un hommage désintéressé, à apprendre comment on gagne de l'or, et l'on grossit sa fortune. Ce n'était là toutefois que les prémices de mots plus réels. Henri approchait de cet âge où naît dans le cœur une ambition plus légitime et tout autrement impérieuse que celle de se distinguer ou d'obtenir de la gloire. Aimer, être aimé, connaître les joies d'un amour partagé, le bonheur d'une union intime et tendre, C'est le vœu de la nature et l'irrésistible penchant de tout mortel. Ce penchant, nul ne le trompe sans se dépraver. Nul n'entreprend de le refouler et de le vaincre sans se vouer à un long supplice dont l'âge amortit la souffrance, mais dont la mort seule est le terme. Telle est pourtant la destinée qui menace tout être difforme, celui justement qui de longues et secrètes amertumes ont aiguisé le besoin d'affection et qu'un veuvage forcé livre en proie aux tortures d'un isolement éternel et détesté. Aussi est-ce par là que l'infortuné est surtout à plaindre, que sa vue jette dans le cœur un trait de douloureuse pitié. Un jour, un étranger visitait une manufacture. On lui fit remarquer, parmi d'autres travailleurs, un ancien soldat devenu artisan. Le visage de cet homme était défiguré d'une façon hideuse par d'horribles cicatrices. À cette vue, l'étranger fut péniblement ému. « Est-il marié ?» demanda-t-il. Sur la réponse affirmative, son émotion parut se calmer, subitement, et il passa outre en disant « Dans ce cas, réservons notre compassion pour d'autres. Ah, j'étais présent. Le mot est resté longtemps gravé dans ma mémoire, comme un mot étrange et dur à la fois. Aujourd'hui, j'y reconnais un sens aussi juste que rempli d'humanité. C'est assez ordinaire, en effet, chez les âmes ardentes et généreuses, que vers l'âge d'homme, ce sentiment qui leur faisait ambitionner les hommages et les sympathies de la foule change d'objet et cherche dans l'amour et l'estime d'une compagne ce qu'il désespère d'atteindre ailleurs. Bien des héros adolescents, déçus dans leurs rêves de gloire ou naufragés dans leurs espérances d'immortalité, sont venus aborder au port d'une obscure et paisible union. Ils n'étaient point à plaindre. Rencontrer l'amour, se voir renaître, asseoir sa vieillesse au foyer domestique, c'est accomplir sa destinée. C'est tout au moins, parmi les biens précieux qui semblent promis à tous, avoir obtenu sa part. Mais entrevoir ces biens, les contempler répandus autour de soi, y aspirer de toute la force de son âme, et n'y pouvoir jamais atteindre, mais vivre au milieu de ces jeunes filles, dont la vue seule jette dans le cœur un irrésistible désir de possession, et se sentir exclu à toujours du bonheur de plaire et d'être aimé, n'être pour toute femme qu'un monstre dont l'hommage ne saurait être qu'insultant ou risible. Ah, c'est bien là être plus à plaindre que le dernier des misérables. Il y a bien de quoi comprendre pourquoi cet étranger dont je parlais tout à l'heure, en s'appuyant en pas et en passant outre, était un digne homme, humain et sensible au bon endroit. Heureusement, cette perspective d'un effroyable isolement ne se montra ni tout d'un coup, ni comme certaine au malheureux qu'elle attend. Et c'est ainsi, sans doute, qu'au lieu de se briser avec désespoir contre l'injuste rigueur du sort, il ploie par degrés et porte jusqu'au bout le fardeau d'une vie sans douceur. Quand mon ami entra dans le monde, bien que désabusé sur mille choses par une précoce expérience, il n'y apportait point l'idée que l'hommage d'un cœur comme le sien fût indigne d'être agréé, ni que la carrière du mariage dût lui être fermée comme celle du barreau et de la guerre. Toutefois, s'il se faisait des illusions à cet égard, il avait assez éprouvé de mécompte pour se montrer timide, craintif auprès des femmes, pour ne vouloir plaire que par les agréments d'un esprit aimable et cultivé, sans jamais tenter de captiver par l'expression des sentiments vifs et trop réels dont son cœur était plein. Ces deux situations lui étaient un piège continuel. On le souffrait, on aimait son commerce, on le cherchait même, à la condition qu'il occupât toujours cette place. Mais lui, pour s'y tenir toujours, pour n'oser jamais provoquer ni hasarder un mot d'affection, ne pouvait que se consumer en efforts s'il y réussissait, ou s'attirer de barbares mortifications s'il laissait percer dans ses manières ou dans ses discours le moindre signe de tendre préférence. J'étais alors son confident. Il versait souvent des larmes. J'en savais la cause, mais je ne le provoquais point à me découvrir les blessures auxquelles je ne connaissais aucun remède. Et lui-même, par une sorte de répugnance qu'il éprouvait à remonter jusqu'à l'ignoble cause de ses souffrances, aimait mieux me laisser deviner ses maux que d'en parler ouvertement avec moi. Pourtant, il lui arrivait de me dire « Oh, celle que j'adore est belle, elle est aimable entre toutes. Oh, mais je te le jure, plutôt que de demeurer seule, je m'adresserais de la moins belle à la moins aimable, si je savais que celle dont les autres ne veulent point me vouloir m'aimer et me vouloir. » Je l'encourageais dans ses vœux modestes, et profitant de son abattement même pour combattre la naissante passion qui l'entraînait vers un choix impossible, je lui faisais considérer, avec un espoir que je partageais moi-même, qu'en bordant ainsi ses prétentions et en renonçant à des avantages de figure séduisants mais passagers, il ne pouvait manquer d'être heureux un jour. Ces mortifiantes consolations l'affligeaient. Toutefois, il avait trop de sens pour n'en pas tenir compte, et ses manières étaient telles que, du moins, le ridicule ne s'attaquait pas à des sentiments dont rien au dehors ne révélait l'existence. Mais ici encore, si Henri échappait aux traits d'un monde dur et moqueur, le découragement et la tristesse l'atteignaient non moins sûrement par une autre voie et lui enlevaient jusqu'au bien même qui lui semblait acquis. Il n'avait pas tardé à se distinguer dans sa nouvelle carrière. Déjà, la considération publique l'y entourait. Devant lui s'ouvrait un avenir de brillante fortune. Et il ne lui appartenait plus qu'à tout autre d'ennoblir sa profession par l'élévation du caractère et par l'éclat des services rendus. Mais à mesure qu'il découvrait mieux l'impossibilité de faire hommage de ses biens à une compagne de son choix, leur valeur décroissait à ses yeux, et insensiblement toute flamme d'ambition s'éteignait dans son cœur. Il s'arrêta bientôt dans cette route qu'il avait jusqu'alors parcourue avec distinction. Il réduisit sa situation commerciale à ne lui être plus qu'un simple métier pour vivre, puis, laissant se rompre pour la plupart de ses relations, il s'exila des salons qu'il avait fréquentés et finit par se concentrer dans une vie taciturne et solitaire. Un trait singulier, étrange, peint bien, ce me semble, la situation d'âme où se trouvait mon ami vers cette époque, et donne l'indice des tumultueux mouvements qui entretenaient une dévorante amertume. Un jour que nous nous promenions ensemble, deux voix de femmes, accompagnées de la harpe, se firent entendre à quelque distance. Henri, sur qui la musique exerçait en tout temps beaucoup d'empire, s'arrêta pour écouter. Puis il m'entraîna vers le côté d'où les voix semblaient partir. C'était la cour silencieuse d'un riche hôtel. Nous y trouvâmes deux chanteuses de carrefour. Ces deux femmes chantaient une antique ballade. Il y avait dans leur mise et dans leur manière un air de décence et d'honnêteté. L'une d'elles, jeune et timide enfant, paraissait être la fille de l'autre. Des cheveux d'un blond pâle et soyeux étaient lissés sur son front bruni par le soleil, et de longs cils fauves voilaient son regard modeste, et ses traits présentaient ce mélange de grâce délicate et de sauvage rudesse, dont le poétique attrait ne se rencontre guère que chez les femmes ainsi vouées à une vie errante et aventureuse. En voyant sa jeunesse ainsi exposée au regard hardi de la foule, on ne pouvait se défendre d'un sentiment de compassion, et l'on contemplait avec une sorte de mélancolie cette jeune plante abandonnée aux injures de l'air et fleurissant loin du sol natal sous la menace des orages du ciel et de l'outrage des passants. Mais ce qui n'est pour tout autre qu'une fugitive impression suffit quelquefois pour remuer profondément un cœur malade. Debout et immobile à mes côtés, mon ami considérait cet enfant avec une tendre pitié. Au son de cette mélodie peu variée, mais douce et simple, ses traits s'animaient d'un rayon de sentiment et les larmes venaient mouiller sa paupière. Il semblait qu'il fût passé sous le charme de ces songes éclatants, de ces transports sans cause, que fait surgir du sein de l'âme un chant expressif et que son cœur battit de reconnaissance pour la jeune fille dont les accents lui procuraient cette passagère mais vive félicité. Mais comme ces émotions n'avaient en général pour effet que d'aggraver plus tard sa tristesse, je voulus y couper court en nous éloignant. Mais il ne me retint ni ne me suivit. Après une balade, ces femmes en chantèrent une autre. La jeune enfant vint en rougissant cueillir notre offrande, puis elles se retirèrent pour recommencer plus loin. Nous les suivîmes de place en place jusqu'au soir. Quand nous les eûmes quittées, Henri demeura longtemps silencieux et préoccupé, jusqu'à ce qu'enfin, donnant essor à sa pensée, « Mais qui arrachera ces femmes, dit-il brusquement, à ce métier abject et pénible? Mais qui remettra cet enfant à sa place, qu'elle est digne, j'en suis sûr, d'occuper ?» Non, non, on ne rougit pas ainsi. On n'a pas ce regard timide, ce front chaste, si l'on est honnête et pur. » Tout en parlant ainsi avec un air passionné, Henri me regardait fixement comme pour pénétrer l'impression secrète que me faisaient ses paroles. Et comme incertain moi-même sur le sens qu'il fallait y attacher, j'hésitais à répondre. « Mais c'est moi, reprit-il avec véhémence, mais c'est moi qui voudrais lui mettre cette place dont elle est digne. Mais c'est elle qui ne voudrait pas de moi, et vous n'osez me le dire. » En achevant ces mots, sa voix s'altéra et les larmes vinrent à ses yeux. « Henri, lui dis-je, Henri, vous vous égarez. Pouvais-je vous comprendre ? Oui, je crois que ces femmes sont honnêtes, mais quelle apparence que l'opinion vous pardonna le scandale d'une semblable union ! » Ces mots le jetèrent dans un transport de fureur et de désespoir. « Mais l'opinion, interrompit-il, tout pâlissant de dédain, des sacrifices à l'opinion à moi, et à quel titre ? Que lui dois-je ? L'opinion, je la hais, je la méprise, je la brave. Je ne veux ni souffrir ni mourir pour elle, entendez-vous? Lui, l'opinion, le scandale, oh, plutôt au ciel que ce fût cela les seules barrières. Mais non, dites vrai, dites une fille que j'aurais ramassée dans la rue est encore un trop précieux parti pour que j'ose y aspirer. Dites que je suis condamné à vivre et à mourir seul et misérable. Dites que vous-même, vous, mon ami, vous ne pouvez vous défendre de souscrire à cet arrêt. Et il ne put continuer, les sanglots étouffèrent sa voix. Ainsi se termina cet entretien. Il ne fut plus question de ces femmes, et Henri retomba bientôt dans un sombre abattement. Mais depuis ce jour, nos relations furent moins fréquentes et nos conversations moins intimes. Il avait trouvé mes discours et plus encore mon silence cruel. Et comme s'il eût à décompter sur l'aveuglement de mon amitié, la sienne se refroidit insensiblement. Quelques mois après, il fit, sans m'en instruire, une démarche auprès d'une jeune personne qui était sans avantage de figure ni de fortune. Refusé, il mit ordre à ses affaires, sans mystère mais sans faire connaître ses projets, et bientôt on apprit qu'il avait quitté la ville. Beaucoup de bruits circulèrent au sujet de ce départ clandestin, et j'ignorais moi-même quelle avait pu être la destinée de mon ami, lorsque, après 7 années de silence de sa part, j'ai reçu ces jours passés la lettre qu'on va lire et écrit à cette occasion les pages qui précèdent. Vous souvient-il, Louis, d'un pauvre bossu que vous avez aimé, supporté, consolé? Mais il est aujourd'hui marié, père et content comme ne le fut jamais homme sans bosse. C'est lui qui vous écrit. Le malheur aigri, aveugle. Quand je partis, je me détestais moi-même et je ne vous aimais plus. Et aujourd'hui, je songe avec larmes que j'ai pu méconnaître votre longue et patiente amitié, et mon cœur ne se pardonne pas d'avoir été ingrat envers le vôtre. J'ai une compagne, Louis. Ce bonheur que j'ai tant rêvé, je le goûte dans toute sa plénitude. Dieu m'a tiré du bord de l'abîme vers lequel m'entraînait le désespoir pour m'élever à cette condition d'homme et de père dont la félicité répond à tout ce que se figurait mon imagination elle-même. Autour de nous grandissent 3 enfants. Dont la vue seule me transporte de plaisir et me fait admirer avec adoration celle qui me les a donnés. Dites, Louis, à vos demoiselles, qu'elles épousent des bossus. Je crois en vérité qu'un bossu pourrait bien être le plus dévoué, sinon le plus séduisant des maris. Sa femme est pour lui bien plus qu'une femme, c'est une providence qui l'a sauvée. Il ne se croit point un égal, mais sa reconnaissante créature. Surtout, il ne peut oublier jamais qu'en lui accordant cette affection à laquelle il ne pouvait prétendre, elle l'a remis en possession des joies du ciel dont il était déshérité, et son cœur tout entier ne peut suffire à la chérir dignement. Et quand je partis, je n'allais pas vous dire mes projets. C'est que je n'en avais pas, cher ami. Ma seule envie était de fuir les lieux où j'avais tant souffert et de m'en éloigner le plus possible. Aussi, lorsqu'après quelques séjours à Paris, on m'y proposa de passer en Amérique pour y terminer une affaire dans laquelle était engagé de grands intérêts, je m'empressai d'accepter et, quelques jours après, je voguais sur l'océan. Le navire était encombré de passagers, et parmi eux je remarquai un jeune homme d'environ 25 ans, dont l'air grave et triste à la fois attira dès les premiers jours ma sympathie. J'allai à lui, nous causâmes. Il paraissait travailler de quelque mal qu'il supportait avec une tranquille courage. Et ce mal s'aggrava beaucoup durant la traversée, qui fut longue et pénible, et nous étions déjà en vue de la terre, qu'il était devenu peu probable qu'on pût y débarquer vivant. Sa jeune épouse ne le quittait pas un instant. Je me souviens que, témoin des tendres soins qu'elle lui prodiguait, je regardais ce moribond d'un œil jaloux, et j'aurais acheté de tout ce qui me restait de bien ou d'espoir le plaisir de mourir dans les bras de cette angélique créature. Bien, ce monsieur était un jeune ecclésiastique, plein de foi et de désintéressement, qui se rendait dans un des districts éloignés de l'Ouest pour y desservir une église naissante. Son frère, établi depuis quelques années dans la contrée, l'y avait appelé. Ce fut lui-même qui me conta ces choses. Mais, ajouta-t-il un jour que sa femme ne pouvait pas nous entendre, oh, je doute que je puisse arriver jusque-là. Ce que je demande à Dieu, puisqu'il me retire à lui, c'est de me laisser le temps de remettre ma femme aux soins de mon frère. Ces derniers mots lui causèrent un attendrissement contre lequel il s'efforça de lutter en priant Dieu avec une simplicité de termes et une candeur de foi qui m'empêchait de trouver étrange qu'il passât ainsi devant moi de la conversation à la prière. Il vécut assez pour prendre terre. Leur isolement m'avait rendu nécessaire, et je trouvais l'oubli entier de mes propres chagrins dans l'idée de n'être pas inutile à ces deux affligés. Afin de m'accommoder à leur situation, qui demandait la plus stricte économie, j'allais choisir par mes hôtels de New York le plus modeste et je vins m'y établir avec eux. Le repos et surtout les soins d'un habile docteur suspendirent quelques jours les progrès de la maladie, mais sans dans cet infortuné l'espoir de guérir et de vivre. Et comme nous succédions, sa femme et moi, à son chevet, je saisis ces occasions que j'avais de le voir seul pour calmer les angoisses que lui causait le prochain délaissement de sa jeune compagne. Je lui promis que je la conduirais moi-même auprès de son frère, dès que j'aurais terminé l'affaire qui m'amenait à New York, et que, si elle ne se déterminait pas à rester auprès de lui, je la ramènerais en Europe pour l'y remettre aux mains de sa propre famille. Ses promesses lui rendirent le calme. Il ne s'occupa plus de son épouse que pour la préparer à une séparation prochaine. Et soutenu jusqu'au dernier moment par les espérances de la foi, il s'éteignit paisiblement au bout de peu de semaines. Je restai ainsi le protecteur de sa veuve. Notre situation était équivoque aux yeux du monde, mais elle était pour nous deux claire et nettement définie. Car Jenny, c'est le nom de cette jeune dame, avait appris de son mari lui-même et mes promesses et l'acquiescement qu'il y donnait. Je la voyais tous les jours, et vous connaissez assez, Louis, quelle était la situation de mon âme à cette époque, pour deviner, sans que je vous les exprime, les sentiments qui durent y naître bientôt. Mais alors, comme auparavant, je refoulais l'expression, me bornant à remplir les engagements que j'avais contractés. Je regardais comme un bonheur d'avoir au moins à protéger et à servir celle que j'idolâtrais dans le secret de mon cœur. Nous vécûmes ainsi pendant une année, différent de mois en mois, notre départ, jusqu'à ce que mes affaires fussent terminées. Puis nous nous engageâmes dans un voyage de plus de 900 miles, jusque dans les contrées perdues de l'Ouest. Jenny, sensible à mes soins, m'en témoignait souvent sa vive reconnaissance. Puis nous causions de son avenir, de sa famille, des pays que nous parcourions, et le lien d'une intimité qui, pour elle, était douce et sans combat, s'établissait entre nous. Elle unissait à une âme simple un esprit cultivé. Aussi trouvais-je dans sa conversation un attrait assez vif pour me faire oublier, tant que j'étais auprès d'elle, cette affreuse pensée que je ne lui serais jamais rien. Elle devinait cependant en moi quelques secrètes peines, et au soin qu'elle prenait à ne jamais s'arrêter sur certains détails, je jugeais que je commençais à lui être connu. L'endroit où s'était établi le beau-frère de Jenny est un de ces petits bourgs qui s'élèvent de toutes parts sur les confins du désert pour être bientôt eux-mêmes laissés en arrière par les hardis colons qui s'avancent sans cesse dans ces solitudes. En arrivant, nous nous trouvâmes entourés par les habitants de ce pittoresque hameau qui nous indiquèrent la demeure que nous cherchions. Mais ils nous apprirent en même temps que nous n'y trouverions plus le maître. La même maladie à laquelle avait succombé son frère l'avait emporté 2 mois auparavant. Il avait légué ses biens à l'époux de Jenny, mais la mort de celui-ci les faisait passer à un autre frère resté en Europe, et cette jeune dame se trouvait ainsi dénuée de toute ressource. À ces nouvelles, le découragement s'empara de Jenny. Elle se vit comme abandonnée du ciel et des hommes au milieu de cette lointaine contrée. Et cédant à un transport de désespoir, elle se jeta dans mes bras et m'inonda de ses larmes. À ce mouvement d'une jeune femme qui semblait implorer ma protection et se livrer à moi comme au seul ami qui lui resta sur la terre, j'éprouvais la plus forte impression que j'eus jamais ressentie. Le bonheur, le trouble m'ôtèrent la voix. Je respirais à peine. Un rayon d'espoir qui venait de se faire jour dans mon cœur y jetait, au milieu du tumulte des sentiments, le délire de la puissante joie. Et ce moment, Louis, changea mon être. Une infranchissable barrière était tombée. J'étais comme délié de ces chaînes de crainte et de honte qui, depuis tant d'années, pesaient lourdement sur mon cœur. Aussitôt que nous fûmes plus calmes l'un et l'autre, j'osai faire à Jenny le libre aveu de mes sentiments et lui proposer d'unir nos destinées des que nous serions rendus à une situation plus fixe et moins précaire. Elle m'écouta avec émotion, mais sans surprise, et convaincue que c'était bien plus une affection sincère qu'un sentiment de pitié pour son dénuement qui me suggérait ma démarche. Et elle me dit avec simplicité, « Je serai votre femme, monsieur Henri. Puissiez-vous rencontrer en moi une compagne digne de vous? C'est le vœu de mon cœur que je vous livre avec joie. C'est de ce moment, mon cher ami, que datent pour moi les jours d'un bonheur constant et sans nuages. Je bénis la Providence qui, par une mystérieuse voie et d'étranges circonstances, m'a conduit comme par la main au-devant du seul bien dont je fusse avide, et qui me l'a fait rencontrer, alors même que je n'en croyais plus éloigné que jamais. Telles ont été ces dispensations à mon égard qu'aujourd'hui, l'affection, la reconnaissance et la joie se partagent mon cœur, et que ma condition présente tire des angoisses et des misères par lesquelles j'ai passé un charme inexprimable. Jenny avait perdu son père et sa mère. Il ne lui restait en Europe qu'un oncle chargé de famille. Ainsi la nécessité, plus encore que l'affection, aurait pu l'y rappeler. Moi-même, je n'y serais retourné qu'avec répugnance. Mais de plus, j'étais séduit par l'idée de demeurer au milieu de la société nouvelle au sein de laquelle venaient de s'ouvrir pour moi d'heureux jours. La contrée où nous étions était magnifique, à peine changée par les premiers travaux de l'homme, toute sauvage et silencieuse, et néanmoins animée sur quelques points par le mouvement de la civilisation naissante. J'étais désireux d'entrer dans ce mouvement, de revivre de cette vie simple et primitive, où les affections de famille, que relâchent vos mœurs et vos mondains plaisirs, se resserrent, se concentrent et se goûtent dans leur savoureuse plénitude. Je communiquai mes désirs à Jenny, qui les partagea aussitôt, et ne songeâmes plus qu'à les mettre à exécution. Je me présentai pour acquérir la maison et la propriété du beau-frère de ma femme, et l'ayant obtenu pour un prix modique, je déposai une somme qui retournait plus tard aux héritiers. Voilà mon histoire, mon cher Louis, et vous pouvez vous figurer le reste. Je fonde une ville, je défriche, je suis l'une de ces actives fourmis qui parcourent, abattent, transportent et qui chargent par leur action imperceptible mais constante la face de ce vaste continent. J'élis, je vote, je suis tout changé, chargé de droits politiques qui, vu mon naturel et la direction de mes penchants, sont la seule chose qui me fatigue et me pèse dans cette admirable contrée. Mais c'est un mal passager. Et quand j'ai crié, élu, voté pendant toute une journée, je retrouve ma Jenny, mes marmots, et je juge admirable, sublime, les institutions politiques d'un pays où j'ai une femme et trois enfants. Il y a dans notre colonie trois autres bossus. Félicitez-moi de ce que je m'y trouve en compagnie, mais ne les plaignez pas, Louis. Leur bosse ne leur est pas plus lourde que ne m'est la mienne aujourd'hui, bien que deux d'entre eux ne soient pas mariés encore. Mais ils trouveront femme quand ils voudront. Ici, les indigents, c'est-à-dire les paresseux seuls, en manquent. Le mariage n'est pas le dénouement d'un délicat penchant ou d'une romanesque passion, mais un simple établissement. Il ne s'agit que d'unir l'activité d'une compagne à celle qu'on a soi-même et d'avoir un enfant tous les ans. L'homme aisé, industrieux, habile en affaires et de bonne santé, fût-il de la plus ingrate nature, peut choisir entre les plus jolies filles du pays et l'emporter sur tel Adonis qui ne sait ni traiter un marché, ni exploiter un terrain, ni prévoir un gain à faire. Oh, si j'étais né dans ce coin du monde, avec ce que j'ai eu d'aptitude aux affaires, je serais devenu le premier parti de l'endroit, et j'aurais évité bien des souffrances. Toutefois, je n'ai garde de me plaindre de ma destinée. Si j'ai souffert davantage, je jouis outre mesure. Je serai un de ces hommes heureux dont le bonheur me cause plus de plaisir que d'envie, et mille sentiments vifs dans lesquels se trouve le charme de mon existence me seraient inconnus. Envoyez-nous donc vos bossus, nous leur trouverons femme. Mais à ce propos, Quelle pitoyable mégère! Dites-moi que cette opinion dont vous vous êtes fait un jour me faire peur. Dans ce pays-ci, un bossu fait son chemin, ne rencontre nulle entrave. S'il est actif, industrieux, probe, même médiocrement, il devient époux, père, juge, président, que sais-je. Et dans ce même pays, tout fier, tout fanatique de démocratie, de liberté, d'égalité, un homme, s'il est beau, brave, probe, mais noir, s'il est bon, généreux, aimable, mais mulâtre, s'il est actif, industrieux, habile et entreprenant, mais carte rond, cet homme est tenu pour marqué d'une tache indélébile. Il est repoussé, méprisé, exclu à toujours de tout échange d'affection, de tout lien de société et de famille avec les Blancs. Il n'épouse point leurs filles, il ne s'assied point à leur place. Il est parqué dans les villes, parqué dans les théâtres, parqué dans les églises. Voilà ce que l'opinion libre, républicaine par excellence, toute fière, toute hautaine de ses théories de démocratie et d'égalité, trouve ici juste, ordinaire, naturel. Mais quelle folie inconséquente, barbare, gratuitement inhumaine! Encore ces procédés moqueurs et cruels qui, dans vos sociétés polies, s'acharnent contre les malheureux de ma sorte, s'attaquent-ils à des difformités réelles et repoussantes? Encore ceux qui en font usage ne suppliquent-ils nullement d'être généreux humains par excellence, et en tourmentant, en déchirant leurs victimes, ils ne s'enorgueillissent point de leur douceur, ils ne se targuent pas de leur charité. Mais éloignons de notre pensée cet attristant sujet. De plus attrayant ne me manquerait pas s'il me fallait croire enfin cette longue lettre. Combien, mon cher Louis, le commerce d'un ami tel que vous me serait précieux, dans cette terre surtout, si féconde en spectacles intéressants, où la race humaine, venue d'hier, se fonde une destinée nouvelle, où la société se crée sous vos yeux, où tant de questions controversées depuis des siècles parmi vos penseurs arrivent journellement à subir, sur un sol vierge et chez une nation sans précédent, l'épreuve de la pratique et de l'expérimentation, où au bout de chaque idée naît un fait qui la rend sensible aux yeux, qui la pose devant la pensée et lui fournit le sujet d'une investigation animée, vivante, pleine d'attrait pour un esprit curieux. Et si, renouant nos habitudes d'autrefois, nous quittions les villes pour errer dans les campagnes, que ne présenteraient pas d'aimables, de ravissants nos courses dans ces environs où la nature règne en souveraine depuis la création, dans ces solitudes sombres, verdoyantes, silencieuses, remplies de grandeur et de mystère, où les yeux se promènent de merveille en merveille, où la pensée s'agrandit et s'épure, où l'homme faible et périssable, se trouvant face à face avec les œuvres de l'éternelle puissance, éprouve comme un frisson de religieuse terreur, et se réfugie, s'abrite avec amour et tremblement sous l'aile de l'éternelle bonté. Ah, mon ami, si ces émotions me pénètrent, quand j'erre ordinairement, solitairement dans ce désert, que serait-ce si nous les partagions ensemble? Pour ces gens qui m'entourent, ils ne ressentent rien de semblable. Ils sont aventureux, sans sensibilité, religieux, sans poésie, de purs Yankees, allant, venant, spéculant, ne voyant dans les plus sublimes objets qu'une matière à exploiter, et dans les charmes si vrais de la contemplation, que le procédé le plus sûr pour s'ennuyer mortellement. Aussi ne désirais-je, des années d'autrefois, que le bonheur que j'avais de vous voir chaque jour. J'ai dès longtemps oublié la cavalerie. Ce que j'ai vu du barreau m'a dégoûté du barreau. Il ne me reste qu'une vaine image de cet enfant pour qui j'éprouvais jadis un si impétueux sentiment. Mais tant que je vivrai, je regretterai que la destinée m'ait séparé de vous. Et si je fais un jour un voyage en Europe, c'est vous seul, mon cher ami, qui m'y aurez attiré.